VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour et bienvenue. Nous sommes le mercredi 14 mars 2018. Il est 5h30 en temps universel. VOA Afrique vous présente Le Monde aujourd'hui. Au micro, Jacques Aristide.
Et Anne Albertson.
Au sommaire ce matin, Anne.
Le président Trump écarte son secrétaire d'État Rex Tillerson au profit de Mike Pompeo de la CIA, un remplacement qui ne surprend pas.
Depuis un certain temps, M. Tillerson a montré qu'il n'est pas d'accord avec le président.
Dans l'actualité africaine, 25 morts dans des violences intercommunautaires dans le centre du Mali.
3 gendarmes tués dans une attaque au nord de Niamey, au Niger.
En Sierra Leone, l'opposition en tête au premier tour de la présidentielle, le second est prévu pour le 27 mars.
Et comme à l'accoutumée, dans 10 minutes, un tour d'horizon des actualités économiques et sportives.
À peine rentré de sa tournée africaine, écourtée d'une journée, le sort du chef de la diplomatie américaine a été scellé d'un tweet du président Donald Trump. Rex Tillerson a été congédié hier après des mois de rumeurs sur son départ. Interrogé sur les raisons de ce limogeage, le locataire de la Maison Blanche a mis en avant des désaccords de fond, évoquant en particulier le dossier nucléaire iranien. Le président Trump précise qu'il pensait que cet accord était horrible, mais que son secrétaire d'État Tillerson pensait qu'il était OK. Pour des observateurs, la décision est loin d'être surprenante. Écoutez les commentaires de l'ex-secrétaire d'État aux affaires africaines, Herman Cohen.
Je suis pas surpris parce que depuis un certain temps, M. Tillerson a montré qu'il n'est pas d'accord avec le président. Par exemple, sur le commerce extérieur, il était contre sur la décision d'augmenter les tarifs sur l'acier et l'aluminium. Aussi, quand le président a annoncé qu'il va parler avec le chef d'État de Corée du Nord, Tillerson était assez négatif. Mais surtout sur la question de la Russie. Le président Trump veut absolument pas critiquer la Russie. Il ne veut pas critiquer Poutine. Mais en Afrique, M. Tillerson a dit des très mauvaises choses sur la Russie pour la question de l'empoisonnement en Angleterre. Donc ça, c'était le goutte d'eau qui a fait déborder la vase pour le président.
Des propos recueillis par Idriss Fall.
Rex Tillerson quittera son poste de secrétaire d'État le 31 mars prochain. C'est le directeur de la CIA, Mike Pompeo, qui va lui succéder. Qui est Mike Pompeo? Son portrait avec Claire Morin-Gibourg.
Mike Pompeo est major de sa promotion à West Point, la prestigieuse école militaire américaine, en 1986. Après avoir servi pendant 5 ans, mais jamais au combat, il a intégré la Harvard Law School, l'une des grandes facultés de droit du pays. Mike Pompeo s'est lancé en politique en 2010. Élu à la Chambre des représentants, il a rapidement intégré la commission du renseignement de la Chambre, où les élus ont accès à nombre d'informations confidentielles. Mais c'est grâce à l'âpre combat mené par les Républicains contre Hillary Clinton dans l'affaire de l'attentat de Benghazi que Mike Pompeo s'est fait connaître du grand public. Il a réussi à se faire une place dans le premier cercle de Donald Trump. C'est lui qui a porté au président Trump les comptes rendus des agences de renseignement américains. Il a su gagner la confiance du président qui voulait une nouvelle équipe avant le début des négociations historiques avec la Corée du Nord.
Et Mike Pompeo lui-même va être remplacé par Gina Haspel à la CIA. Elle est la première femme nommée à la tête de l'agence de renseignement américaine, mais elle est controversée en raison de son rôle dans des prisons secrètes où on utilisait la torture. Le point avec Eric Manirakiza.
Gina Haspel a 61 ans et doit remplacer Mike Pompeo, choisi pour devenir le chef de la diplomatie américaine à la suite du limogeage hier de Rex Tillerson. Madame Haspel a rejoint la CIA en 1985 et a servi dans plusieurs endroits du monde, notamment à Londres. Sa confirmation pourrait se compliquer. L'influent sénateur républicain John McCain a prévenu qu'elle devra s'expliquer sur la nature et l'étendue de sa participation au programme d'interrogatoire de la CIA dans les centres de détention. Le président de la commission du renseignement du Sénat, le républicain Richard Burr, a déjà annoncé qu'il soutiendrait sa nomination pour ses compétences. Le sénateur démocrate Ron Wyden dit qu'il va s'opposer à cause de son passé. Gina Haspel a été nommée en 2013 à la tête du service national clandestin de la CIA, mais a été remplacée après quelques semaines. Il y a toujours des doutes sur son rôle dans la mise en place de prisons secrètes à l'étranger où des méthodes assimilées à la torture ont été employées pour interroger des suspects. Si sa nomination est confirmée, Mme Haspers sera confrontée à de nombreux défis, notamment sur les ingérences de la Russie dans les élections américaines.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité en Afrique, au moins 25 personnes ont péri dans des violences entre les communautés Peul et Dogon dans le centre du Mali au cours de la semaine écoulée. C'est ce qu'a indiqué hier Abdoulaziz Diallo, président de l'association Tabital Poulaku, qui regroupe les communautés Peul du Mali. Les violences se multiplient depuis 2 ans entre Peul, traditionnellement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture. Aucun bilan officiel n'a été fourni par les autorités de Bamako, mais selon un élu du centre du Mali s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ces affrontements ont fait des dizaines de morts de part et d'autre. Le gouvernement malien et le gouverneur de la région ont formellement démenti avoir fourni des armes aux groupes en conflit. Mais la situation est très complexe et elle peut prendre une tournure communautaire, a reconnu hier le ministre de la Sécurité, le général Salif Traoré.
3 gendarmes nigériens ont été tués lundi soir dans une attaque dans la région de Tillaberi, une zone instable à frontalière du Mali et théâtre de nombreuses incursions de groupes djihadistes. Le ministère nigérien de la Défense a révélé l'information hier en faisant état d'un blessé également. C'est le poste de la gendarmerie nationale de Goubé qui a été attaqué par des éléments terroristes d'après un communiqué qui ajoute que le ministre de la Défense appelle toutes les forces de défense et de sécurité à plus de vigilance et les exhorte à persévérer dans la lutte contre les bandes terroristes et criminelles.
À Conakry, des heurts ont opposé hier encore des manifestants aux forces de l'ordre. L'opposition guinéenne organise aujourd'hui une nouvelle journée de contestation des résultats des élections locales. Un responsable de la majorité accuse les opposants d'avoir un agenda caché. Des détails avec Raïssa Girondin.
De nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui à Conakry. Après une journée ville morte lundi, la seconde en un mois, hier des jeunes ont à nouveau érigé des barricades et brûlé des pneus dans plusieurs quartiers de la capitale. Les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène pour les disperser. Selou Dalen Diallo, le chef de file du principal parti de l'opposition, rejette les résultats des élections locales du 4 février. Amadou Damaro Camara, le chef du groupe parlementaire du RPG, l'accuse de vouloir créer l'anarchie pour déstabiliser le régime d'Alpha Condé. Par ailleurs, une grève paralyse depuis le 12 février le secteur de l'éducation. Les enseignants réclament des augmentations de salaire. Cela entraîne des manifestations quasi quotidiennes des élèves et des parents pour demander la réouverture des écoles.
En Sierra Leone, le candidat du principal parti de l'opposition, Julius Maada Bio, a légèrement devancé son rival du parti au pouvoir, Samora Camara, lors du premier tour de l'élection présidentielle du 7 mars. Un second tour aura lieu le 27 mars, selon la commission électorale du pays. Les électeurs sierra-léonais se sont déplacés en nombre le 7 mars dernier pour élire leur nouveau président et vice-président, membres du Parlement et conseillers locaux. Le président sortant, Ernest Bai Koroma, ne pouvait plus se représenter après 2 mandats de 5 ans.
Au moins 30 personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi dans plusieurs villages de l'Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo, en proie à une reprise des violences depuis décembre dernier. Selon un responsable administratif, l'attaque a eu lieu juste après le départ du ministre de l'Intérieur, Henri Mova, dans la région. L'armée congolaise avance une autre version en affirmant qu'à Njo, il n'y a pas eu de massacre.
Le ministre malgache de la Justice, Élise Rasolo, a porté plainte pour diffamation devant le tribunal correctionnel de Paris contre l'évadé français Houssine Arfa. Il a accusé la ministre d'avoir accepté un pot de vin, condamné à Madagascar à 3 ans de prison, notamment pour usurpation de fonctions et extorsion de fonds. Le français a profité d'une visite à l'hôpital à Antananarive pour s'évader le 28 décembre. Houssine Arfa a affirmé avoir pu s'évader en versant de l'argent à la ministre Rassol et à la procureure d'Antananarive. La ministre a catégoriquement nié ces accusations.
Le mouvement social contre l'insécurité et l'immigration clandestine qui touche depuis 4 semaines l'archipel français de Mayotte dans l'océan Indien semblait s'acheminer vers une sortie de crise avec une proposition de lever les barrages routiers. Annonce faite après 5 heures de négociations avec la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Ce petit département français est situé entre la côte orientale de l'Afrique et Madagascar.
Les autorités marocaines ont lancé hier un avertissement aux manifestants de Djerida dans le nord-est du pays, agité par un mouvement de protestation depuis fin décembre. Le gouvernement se dit prêt à des réponses fermes face aux agissements et comportements irresponsables. La mort accidentelle en décembre dernier de deux mineurs dans un puits désaffecté de charbon, suivi depuis de deux autres décès accidentels, a mobilisé la population de cette ville sinistrée depuis la fermeture de ses mines à la fin des années 1990.
Et retour aux États-Unis, le président Donald Trump a examiné hier à San Diego les 8 prototypes du mur qu'il veut construire le long de la frontière avec le Mexique afin de freiner l'immigration clandestine. Dans ce bastion démocrate de la Californie, sa venue a provoqué plusieurs rassemblements restés pacifiques, avec d'un côté une petite centaine de ses partisans et de l'autre environ 200 opposants, dont beaucoup d'origine hispanique. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Sans plus tarder, on condense des nouvelles économiques en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Dili Dico.
En Côte d'Ivoire, la procédure pour l'obtention du certificat de titre foncier est trop lourde et complexe. C'est la conclusion à laquelle est parvenu le Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'institution révèle que 500 000 certificats de titre foncier étaient attendus, mais 17 ans après le vote de la loi de 98, seulement 3 857 certificats ont été délivrés, soit 17%. Parmi les 3857 certificats, seuls 741 ont été délivrés à des femmes. En Libye, l'Union européenne débloquera 61 millions de dollars pour aider les villes touchées par l'immigration clandestine. Ce financement entre dans le cadre d'un programme qui sera lancé par le Fonds d'affectation spéciale d'urgence de l'Institution pour l'Afrique. L'UE a déjà engagé 292 millions de dollars via le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique afin d'aider la Libye à se redresser et à faire face aux défis de l'immigration. L'Afrique du Sud envisage d'émettre un eurobond de 3 milliards de dollars pour profiter des taux relativement bas et de la forte demande des investisseurs. L'économie sud-africaine a enregistré une croissance de 1,3% en 2017, ce qui représente près du double du taux enregistré en 2016.
Pour le billet sportif ce matin, nous retrouvons Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Manchester United chute en huitième de finale de la Ligue des Champions.
Incapable de battre le FC Séville en deux confrontations, le club anglais de Manchester United a été éliminé hier soir en huitième de finale de cette Ligue des Champions. Une défaite à domicile, 2-1, c'est une grosse désillusion pour le club entraîné par José Mourinho qui rêvait d'un meilleur destin après avoir attendu 4 ans pour revenir dans la prestigieuse compétition. Wissam Ben Yedder, auteur d'un doublé pour les Andalous, et Romeo Lukaku qui avait réduit le score pour les Mancuniens. Dans l'autre rencontre de la soirée, le club italien de la Roma s'est qualifié en battant l'équipe ukrainienne du Shakhtar Donetsk 1-0. Le but marqué à l'extérieur a suffi aux Romains qui s'étaient inclinés au match aller 2-1.
Les derniers huitièmes de finale ce mercredi.
Le FC Barcelone, revenu d'Angleterre avec un précieux nul d'un but partout, accueille Chelsea. Les Anglais qui avaient terminé la première manche frustrés par l'égalisation de Lionel Messi en toute fin de match. L'autre rencontre est moins attrayante sur le papier. Grâce à des doublés de Thomas Müller et Robert Lewandowski, le Bayern a mis KO les Turcs de Beşiktaş au match aller. Le Bayern de Munich n'a donc pas grand-chose à craindre sur la pelouse du Beşiktaş après la victoire 5-0 à l'aller.
Préparation du Maroc pour la Coupe du Monde 2018.
Oui, le jeune attaquant Ayouba El Kaabi, révélation du CHAN 2018, a été convoqué pour la première fois avec l'équipe marocaine A qui affrontera en match amical la Serbie et l'Ouzbékistan en vue du Mondial 2018 en Russie. Âgé de 24 ans, El Kaabi, avec un record de 9 buts lors du CHAN et quelques actions de classe mondiale, eh bien, l'attaquant du RS Berkane avait été désigné joueur de la compétition lors de cette épreuve. Allez Jacques, avec vous, quelques résultats de NBA cette nuit, le championnat de basket nord-américain.
Victoire de Thunder d'Oklahoma City à Atlanta, 119-107. Indiana Pacers, 101. Philadelphia Sixers, 98. Minnesota Timberwolves, 116. Washington Wizards, 111. Dallas Mavericks, 110. New York Knicks, 97. LA Clippers, 112. Chicago Bulls, 106. Charlotte Hornets, 115. New Orleans Pelicans, 119. Orlando Magic, 72. San Antonio Spurs 108, Detroit Pistons 79, Utah Jazz 110, Cleveland Cavaliers 129, Phoenix Suns 107.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Jacques Aristide, toujours avec vous. Merci pour votre fidélité. Cap sur la République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi a mis sur pied un mouvement pour le soutenir à la présidentielle prévue pour décembre prochain. Dans le même temps, le parti UDPS se prépare à remplacer le défunt Étienne Tshisekedi pour la même raison pendant que le MLC de Jean-Pierre Bemba, l'UNC de Vital Kamerhe et le PALU d'Antoine Giganga se rapprochent. Eddy Sango a fait réagir le président de la coalition des Congolais pour la transition, Emery Damien Kalwira.
Tous ceux de l'opposition qui adhèrent à ce processus électoral qui est fraudé d'avance, qui est truqué d'avance, ce sont des gens qui veulent soutenir le renforcement du régime M. Kabila avec son seuil fabriqué de toutes pièces qu'ils appellent la loi sur le seuil de la représentativité. Aujourd'hui, aucun acteur politique sérieux ne peut souscrire au processus électoral défini dans les conditions actuelles. Et la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila reste campée sur ses positions. Il n'y aura jamais de vraies élections dans le pays avant une transition qui balise le terrain, des vraies élections qui garantissent vraiment la transparence et l'égalité des chances. Et donc, ici, pour s'arrêter sur ces gens-là, ils ont sûrement des accords secrets avec M. Kabila, parce que tel que ce parti, une élection ramenée à un seul tour en 2011 pour barrer la route à l'opposition, je ne vois pas avec quelle magie ces opposants corrompus par M. Kabila peuvent prétendre gagner cette élection. Une élection organisée avec un seuil de représentativité qui ne profite qu'au seul PPRD, je ne vois pas quel opposant peut prétendre la gagner.
La crise en RDC, c'est dû à la non-tenue des élections. Il y a eu un dialogue, il y a eu un accord qui a été signé. Il faut que cet accord soit appliqué, c'est-à-dire arriver à organiser quand même les élections.
Cet accord était déjà mort-né et cet accord a déjà été enterré. D'ailleurs, hier, M. Lambert Mende, confié à l'un de vos confrères à Kinshasa, il s'est réjoui de voir qu'ils ont réussi à ramener tout le monde dans un processus déjà corrompu d'avance. Le peuple congolais ne sera libéré qu'après une transition qui va écarter le système de M. Kabila et baliser le terrain pour de vraies élections. La machine électorale actuelle a pour objectif de favoriser les fraudes au profit du PPRD.
Appeler à une transition sans Kabila, n'est-ce pas, là, lui faire la part belle et l'aider à se maintenir au pouvoir.
Les deux patrons de la CENI, la centrale électorale, sont tous les deux les amis de M. Kabila. Ils exécutent les ordres de M. Kabila. Vous savez également que le Conseil constitutionnel qui a maintenu M. Kabila au pouvoir à travers des arrêts tronqués est composé des amis de M. Kabila. Et par conséquent, il faut être idiot pour espérer une élection transparente dans des conditions pareilles. Le gouvernement du Botswana a demandé au monde entier d'user de toutes les influences possibles pour évacuer M. Kabila afin de favoriser le tour de la paix, de la démocratie et de la justice en République démocratique du Congo.
Emery Damien Kalwira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
Cette semaine, dans Washington Forum, l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Les partis ont jusqu'à la fin du mois pour déposer le nom des plateformes politiques qui vont se présenter, mais déjà, des candidats ont fait part de leurs ambitions présidentielles. Après plusieurs reports, le vote est prévu le 23 décembre 2018, soit 2 ans après la fin théorique du deuxième mandat du président Joseph Kabila. Dans l'attente de ce scrutin, les manifestations interdites persistent en dépit de la répression. Qui sont les candidats? Qui représentera le parti au pouvoir? Le calendrier électoral peut-il être respecté? On en discute dans Washington Forum. Morgane Guiriac avec vous. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA.
Nous vous en parlions hier. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a été élevé au rang de guide suprême éternel du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Personne ne peut se comparer à lui, selon le secrétaire général du parti qui ajoute que le chef de l'État est le père de tout le monde. Les réactions des habitants de Bujumbura divergent. Certains croient au bienfait des réalisations du président burundais, tandis que d'autres estiment qu'il y a d'autres urgences. De la capitale burundaise, le reportage de Christophe Kurunziza.
Président du Conseil des sages depuis belle lurette, Pierre Nkurunziza est le père de tous les Bagumyabanga, membres cotisants du parti au pouvoir. Le secrétaire général du parti Évariste Ndayishimiye.
Le comité central du parti CNDD-FDD a déjà décidé que son excellence le président Pierre Nkurunziza est notre guide permanent, c'est notre papa qui nous conseille. Cette décision doit être respectée car une famille sans père de famille n'est pas respectée. Heureusement, dans notre parti, il est notre aîné.
En fait, Pierre Nkurunziza est considéré par les membres de son parti comme une personne de référence, une personne ressource, un visionnaire. Dans les rues et avenues de la capitale Bujumbura, bien de personnes pensent comme cet homme qui corrobore les affirmations du secrétaire général du parti au pouvoir.
Pour moi, l'idée est vraiment bonne. Notre président doit avoir le soutien de la majorité de la population burundaise pour continuer ses projets de développement du pays. Mais dans le cas contraire, le congrès du parti CNDD-FDD doit encore une fois se réunir pour chercher la continuité ou le changement. Vraiment, c'est l'homme de la situation.
Pour cet autre parent de Bujumbura, il y a d'autres urgences qui doivent être résolues par les autorités.
Moi, je trouve que c'est trop pressé. Il faut d'abord qu'on répare les premiers dégâts. Si on ne répare pas les premiers dégâts, on ne peut pas aller au-delà. Il y a le troisième mandat, il y a les problèmes qu'il y en a. Après, il peut être la loi.
Mais d'autres Burundais, comme ces deux femmes que nous avons rencontrées près de l'ancien marché central de Bujumbura, ont d'autres idées.
S'ils ont respecté les procédures et tout le consort des textes légaux et qu'ils ont approuvé, c'est bien peut-être.
On constate ici et là qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a la famine, il y a les gens qui ont fui le pays. Il y a tout ça. C'est pas bon quand même pour le pays qui était appelé jadis le pays du lait et du miel.
Pour le porte-parole du parti prenant, non reconnu par le pouvoir en place, Tassien Sibomana estime que les prochaines échéances vont nous éclaircir sur ce qu'a indiqué le comité central du parti CNDD-FDD.
On voit à travers le projet de révision des insinuations au retour à la monarchie. Si demain il se déclare monarque ou empereur, est-ce que les membres du comité central de son parti vont l'accepter comme tel? C'est ça les grandes question qu'il faut se poser.
Le Burundi se dirige au mois de mai prochain vers un référendum de changement de la constitution qui, s'il est adopté comme tel, permettra au président burundais de briller deux mandats qui le conduiront jusqu'en 2034. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En République centrafricaine, les anti-Balaka et les 3R exigent du gouvernement de déployer ses forces dans la région de Nanamambéré avant de déposer les armes. La violence a nettement diminué depuis l'arrêt des hostilités le 15 décembre dernier et les deux groupes armés ne s'affrontent plus. Le retour de la population civile se fait timidement, mais la paix reste fragile. Pour en parler, Eric Manirakiza joint le coordonnateur des actions en Afrique centrale et dans les Grands Lacs auprès du Centre pour le dialogue humanitaire, Patrick Kilchenman.
Dans la Nanamambéré, c'est une zone de passage du nord du Tchad où on a les populations d'éleveurs peuls qui descendent avec leurs troupeaux de bétail dans le cadre de leurs activités de pastoralisme à la recherche de pâturage. Ces populations se faisaient voler du bétail parfois, le groupe 3R, pour les défendre, cette armée. Et puis chaque fois qu'il y avait du bétail qui était volé, on n'avait pas d'affrontement direct entre les anti-Balaka et les 3R, mais on avait des représailles d'une partie sur une autre partie et puis les représailles se faisaient sur la population civile. Depuis la signature de la d'accord, qu'on a plus les attaques de villages ou plus le vol de bétail qui est significatif.
Est-ce que le gouvernement peut déployer facilement ses fonctionnaires dans cette localité?
C'est petit à petit d'avoir les vaccinateurs du ministère de la Santé qui se déploient dans la zone pour vacciner les populations, parce que ça fait plus de 3 ans en tout cas que les enfants n'ont pas été vaccinés contre la poliomyélite, mais aussi contre la rougeole et toutes autres sortes de maladies. que les humanitaires ne vont pas encore dans cette zone, encore toutes notifiées en rouge, et ça n'aide pas aux vaccinateurs du ministère de la Santé ni aux organisations humanitaires d'aller se déployer dans toute cette région. Donc il faut regagner petit à petit la confiance.
Quels sont les risques possibles ?
Comme on n'a pas la présence de l'État, on peut très bien avoir, malgré que les groupes soient de bonne foi, des éléments incontrôlés qui circulent et puis qui pourraient s'attaquer aux populations, et puis du coup ça pourrait entraîner des représailles. Et la paix est encore très fragile dans tout cet endroit.
Y a-t-il un conflit quelconque qui peut remettre en cause l'accord qui tient toujours ?
On a encore d'autres groupes armés qui sont là. Il y en a un justement qui circule dans la région et qui est un groupe tout récent, le groupe Siriri. Et on ne sait jamais si tout à coup il y a une action qui se passe, un vol de bétail ou une attaque contre un village. Ça pourrait fragiliser complètement les accords entre les deux groupes 3R et Anti-Balaka. C'est pour ça que le déploiement des forces armées centrafricaines permettrait de stabiliser la situation.
Est-ce que la situation dans le reste du pays n'affecte pas cette amélioration constatée dans cette localité ?
L'accord qui a été trouvé entre les deux groupes est le fruit d'un long travail de négociation qui a été initié par le Centre pour le dialogue humanitaire. Et on arrive à avoir un accord de paix très localisé. Lors du forum de Bangui en 2015, les 14 groupes signataires ont exprimé la volonté d'avoir la paix et de stabiliser la situation. Des promesses qui ont été faites, de désarmement notamment. Le programme DDR prend son temps. Et plus le temps passe, plus les groupes fragmentent, ce qui rend la situation de plus en plus complexe à l'intérieur du pays.
Patrick Kilchenman, coordonnateur des actions en Afrique centrale et dans les Grands Lacs auprès du Centre pour le dialogue humanitaire.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Vous le savez, avant qu'il ne soit limogé hier, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a effectué une tournée en Afrique avec des étapes au Kenya, à Djibouti, en Éthiopie, au Tchad et au Nigeria, où il a exprimé son soutien total dans la lutte contre Boko Haram. Un mois après l'enlèvement de 110 écolières à Dapchi, dans le nord-est du pays. Ce nouveau kidnapping a contraint le mouvement Bring Back Our Girls, né après l'enlèvement des filles de Chibok, de revenir à la charge. Le groupe de soutien menait une attaque en règle hier contre le gouvernement nigérian, qu'il accuse d'incompétence et de négligence. De la capitale nigériane, le reportage de notre correspondant Gilbert Tamba.
What are we demanding?
Bring back our girls now!
What are we demanding?
Bring back our girls now.
Des slogans des manifestants du groupe Bring Back Our Girls qui réclament la libération des filles de Dapchi, enlevées il y a plus de 3 semaines à Yobe, dans le nord-est du Nigeria. Ils portent également des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Où sont nos filles de Dapchi ?» La première responsabilité du gouvernement est de protéger des vies et des biens, ou encore « Ramener nos filles maintenant ». Abie Geli Ezegiezili est la présidente du mouvement.
Sur quelle base et sur l'ordre de quelle autorité les troupes ont été retirées de Dapchi et à qui la sécurité avait été confiée? Où se trouve la preuve du transfert de l'autorité de sécurité et à quelle agence de force de sécurité cette responsabilité avait été donnée?
La même organisation réclame depuis bientôt 4 ans la libération des filles de Chibok enlevées en avril 2014. 112 parmi ces filles de Chibok sont toujours dans les mains du groupe terroriste Boko Haram. Mais cette fois-ci, le mouvement menace d'aller devant la justice pour porter plainte contre le gouvernement du président Muhammadu Buhari si les filles de Dapchi et de Chibok ne sont pas libérées dans une semaine. Aïcha Youssouf est membre du mouvement Bring Back Our Girls.
La première responsabilité du gouvernement, c'est la protection des vies et des biens, et le gouvernement du Nigeria n'a pas assumé sa responsabilité pour les filles de Chibok et de Dapchi et à tout Nigérien qui se trouve en captivité. Et donc, nous n'allons pas céder. Nous allons continuer de demander au gouvernement et nous ferons tout dans le respect de la loi pour qu'il assume sa responsabilité. C'est vraiment honteux que nous ayons encore les filles de Dapchi enlevées en ce moment.
Pour l'activiste et avocat Femi Falana, il est inacceptable que le même incident de Chibok en 2014 s'est reproduit dans cette même région.
Considérant les faits et les circonstances de la situation dans cette partie du pays, il est intolérable et inacceptable que le même mode d'enlèvement se soit produit. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'agents de sécurité pour les écoles pour cette région? Et en plus, exactement comme ce qui s'est passé en 2014.
Devant la presse, après son entretien avec le secrétaire secrétaire d'État américain Rex Tillerson, le président Mohamed Bouhari a affirmé que son gouvernement préfère des négociations avec les ravisseurs pour la libération des filles enlevées à Dapchi. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Et voilà. Et voilà, c'est ici que nous allons clore Le Monde aujourd'hui. La réalisation a été assurée par Anne Albertson. John Ellison était notre ingénieur. Merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente journée sur VOA Afrique.